Lord, bonjour d'abord. Bonjour à tous. Vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, dans l'émission Musique au pluriel, avec Paul Turchet et Bruno Point. Lors de notre précédente émission, nous avons parlé de Maurice Ravel. Finalement, nous avons fait le choix de faire succéder à Ravel Claude Debussy. Ce sont les deux grands génies du début du XXe siècle français, génies mondiaux, musiciens reconnus au même titre que Beethoven, Mozart ou Bach, et donc qui ont vécu un petit peu à la même époque. Ravel est né en 1875 pour décéder en 1937. Debussy est né un petit peu avant, en 1862, mais décédé beaucoup plus précocement en 1918. Ils font suite à des grands musiciens français, dont nous, pour certains nous avons parlé, par exemple Saint-Saëns. Incontestablement, Saint-Saëns est un très grand musicien, mais Ravel et Debussy sont des génies. Qu'est-ce que c'est qu'un génie? C'est très difficile à définir, mais en fait, c'est que la musique n'est plus, après eux, la même qu'avant. Bien évidemment, ils sont issus d'une tradition, mais la tradition avec eux change. C'est peut-être moins vrai pour Ravel, qui est resté très classique, mais qui avait une profonde originalité, nous l'avons dit lors de notre précédente émission. Debussy, alors là, on est vraiment dans la nouveauté, dans la novation, dans le changement d'harmonie, on est dans un art qui n'est plus du tout celui qu'il était avant. La grande figure de cette époque, même s'il était décédé depuis une vingtaine d'années, c'est Wagner. Wagner, vraiment, siégeait partout et était un référent pour l'ensemble des musiciens qui l'admirent ou qui le haient. Tous les cas existaient. En l'occurrence, Ravel aimait beaucoup Wagner et Debussy aussi, même s'il s'en défendait. Mais lorsque l'on écoute ou lorsqu'on lit les propos de Debussy, en fait, il se défendait de Ravel pour ne pas le copier. Mais il l'estimait et je dirais même qu'il l'admirait. Je vous propose de commencer cette émission par une des œuvres les plus connues de Debussy. Nous parlerons un peu plus de l'ensemble de son œuvre, qui est la première arabesque que nombre de jeunes pianistes en herbe ont joué. Ça fait partie des choses qui sont à la fois des chefs-d'œuvre très très belles et qui sont abordables au piano, ce qui n'est pas le cas de toutes les œuvres. Donc la première arabesque. Thank you.
Claude Debussy, né le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye. Ce créateur qui va marquer par son œuvre une véritable révolution musicale, la révolution musicale du XXe siècle, n'apparaît pas du tout destiné à la musique. Sa formation est le résultat d'une sorte de situation romanesque, de signe du destin. Ses parents, son père qui est un ancien militaire, et sa mère sont vendeurs de céramique et de poterie à Paris. La vie de la famille est très difficile. Et début 1870, Claude Debussy part avec sa mère, son frère et sa sœur chez la tante paternelle, qui est également sa marraine, Clémentine Debussy, à Cannes. Premier signe du destin, Clémentine perçoit en Achille Claude sans doute des facilités et lui déniche son premier professeur de musique, qui est un modeste violoniste qui vit à Cannes, Monsieur Jean Cerutti. Et puis ça se passe très très bien, l'enfant a des dispositions évidentes. Et deuxième signe du destin, après Clémentine, c'est inouï, c'est un roman de Victor Hugo pratiquement. Son père, qui est communard, est emprisonné lors de la Commune de Paris. Et jeté dans une prison, il rencontre Charles de Sivry, qui est un musicien autodidacte et chef d'orchestre, qui est le beau-frère de Verlaine. Les deux hommes se lient d'amitié, et puis le père de Claude Debussy glisse quelques demandes de faveur pour son fils qui étudie la musique. Et Sivry va confier le jeune Debussy à sa mère, Madame Antoinette Flore Mottet de Fleurville, excellente pianiste, qui va prendre en main Claude et le former. Il sera très bien formé et il sera tellement doué que, à 10 ans, après avoir reçu des leçons d'une grande qualité, eh bien, il est encouragé à poursuivre dans la voie de la musique et on dit à ses parents qu'il est absolument indispensable de lui faire présenter le concours d'entrée au Conservatoire de Paris. Et à 10 ans, Claude est reçu au Conservatoire de Paris, il y rentre le 22 octobre 1872. Vous allez écouter une œuvre très connue et majeure et phare de Debussy, Le clair de lune, ce qui permet de penser à ce que Debussy disait de la musique. N'écoute les conseils de personne, sinon du vent qui passe et nous raconte les histoires du monde. De même qu'il disait, la musique doit humblement chercher à faire plaisir. L'extrême complication est le contraire de l'art. Écoutons Le clair de lune. Thank you.
Nous allons poursuivre, et surtout par la voix de Paul, la biographie de Claude Debussy. Nous venons d'écouter deux œuvres pour piano parmi les plus connues, les plus jouées, et je cherche le bon adjectif, mais les plus aisées, les plus faciles à écouter. Elles sont limpides, on suit une mélodie, alors que même que leurs harmonies sont vraiment révolutionnaires et totalement nouvelles. Nous allons faire exprès de vous proposer une œuvre tardive, une des dernières œuvres de Debussy, pour voir qu'il peut aussi écrire une musique qui est plus difficile à écouter. Et quelquefois, pour bien l'entendre, il faut savoir la réécouter de nombreuses fois. Il s'agit d'une étude pour les arpèges composés. Debussy était alors fort malade. Et c'est un peu Marguerite Long qui fera dans cette émission un pont, puisqu'elle avait créé le concerto pour piano pour les deux mains de Maurice Ravel. Ravel n'ayant pas pu le jouer parce qu'il pensait pouvoir le jouer, mais en fait il était un pianiste honorable, mais pas du tout à même de jouer ce qu'il avait écrit. Et c'est Marguerite Long qui, à la fin de la vie de Debussy, va l'aider, va le conseiller, va le soutenir et va lui provoquer l'écriture de ses études pour piano. Donc saluons Marguerite Long qui a su à cette époque être proche de ces deux grands musiciens. Écoutons donc cette étude et je ferai une petite mention particulière. Elle sera jouée par Marc Pontus. Marc Pontus, c'est un Bressan qui aujourd'hui, je pense, doit avoir une soixantaine d'années, qui est aux États-Unis, qui a été très brillant en piano, qui a fait une carrière de pianiste. Il a joué à Carnegie Hall, entre autres, pour s'orienter vers l'école où il est maître dans un conservatoire indépendant aux États-Unis. C'est donc un grand pianiste issu de Bourg-en-Bresse qui va nous jouer cette étude de Debussy. Thank you.
Entré donc au Conservatoire de Paris à 10 ans, et Debussy est un élève dissipé. Il a une très bonne technique pianistique, il déteste les classes de composition, d'ailleurs il dira qu'il n'y fait rien, et lorsqu'on y travaille, on apprend à harmoniser comme tout le monde a harmonisé avant. C'est vraiment une sorte d'anarchiste. Il joue parfois très vite, il se précipite sur la partition, enfin bon, il est un élève un petit peu particulier. Le troisième signe du destin, c'est qu'il va rencontrer une... On va chercher un peu à l'occuper. Qu'est-ce qu'on va faire du jeune Debussy? Eh bien, il y a une richissime veuve russe, Nadejda von Meck, qui est de passage et qui cherche un bon pianiste. Elle va emporter Debussy véritablement dans ses bagages. Et ils vont aller en Suisse, ils vont aller à Arcachon, ils vont aller à Naples, à Paris, à Nice, à Florence, jusqu'en 1880, donc pendant évidemment plusieurs années. Il va jouer, il va harmoniser, il va faire des transcriptions, et puis il va faire partie quelque part de la famille. C'est un peu le troisième signe du destin. Parmi tous les élèves du conservatoire, eh bien c'est Debussy qui va partir dans les bagages de cette veuve qui est très liée à Tchaïkovski et qui correspond beaucoup avec Tchaïkovski. Elle trouve que Debussy est un très bon pianiste, mais il manque de sensibilité. Mais peu importe, il fait partie de la famille, il voudra même épouser l'une des filles de cette dame, mais cela ne se fera pas. Il va donc revenir à Paris et quand même s'inscrire dans une classe de composition. Ça devrait être Massenet qui l'admire d'ailleurs, qui l'admirera toujours, parce qu'il fait quelque chose de beau et de simple, justement, et c'est un peu son credo. Mais il attirera dans une autre classe. Bien sûr, à l'époque, il faut passer le concours du prix de Rome. La première fois, c'est un second prix. Et il aura le premier prix de Rome en 1884 avec une cantate, L'enfant prodigue. Il obtient une bourse. Bien entendu, il découvre Palestrina, il découvre l'Italie, mais il déteste Belcanto. Il rencontre Liszt, Verdi, mais finalement, il déteste Belcanto. Il compose peu et il va s'ennuyer, il va vouloir rentrer à Paris. Il va néanmoins composer le prélude à l'après-midi d'un faune que nous allons écouter. C'est le premier jalon d'une musique totalement moderne. C'est de l'avant-garde musicale. Voilà. Après avoir été très wagnérien, il se met à détester Wagner. Et il trouve que c'est complètement dépassé, très académique. Il rejette toute esthétique académique. Et donc, il compose ce prélude à l'après-midi d'un faune qui marque une rupture totale. Thank you.
faisons comme les poètes, jouons par résonance. Je vais donc résonner avec des propos tenus par Paul. Paul dit, quelque part, c'est un anarchiste. En tout cas, sa musique, nous venons de l'écouter dans ce prélude, c'est une musique de la liberté. De la liberté, elle est fluide, elle coule, elle est sans fin, elle est libre. Elle n'a absolument pas le carcan d'une écriture classique qui, en son temps, fut il y a eu de grands chefs-d'œuvre écrits sous un mode classique. Mais justement, Debussy s'en est dégagé et sa musique est libre. Écoutez-la chanter. Et si vous aimez cette émission, si vous aimez Debussy, réécoutez le prélude avec cette idée de liberté, de fluidité. Et Paul a dit aussi qu'il n'aimait pas le bel canto. Ça me fait un pont pour l'œuvre suivante que nous allons présenter, à savoir son opéra Pelléas et Mélisande. Effectivement, Debussy, c'est tout le contraire du bel canto. Le bel canto, c'est des belles voix qui s'expriment. Nous adorons le bel canto. Nous n'allons pas suivre les anathèmes de Claude Debussy. Mais en tout cas, lui, c'est un génie et il avait des choses à écrire, à affirmer, qui n'étaient pas celles d'hier. Et c'est donc tout le contraire. Lui, ce qu'il cherche dans sa musique, nous venons de l'écouter dans le prélude à l'après-midi d'un faune. Le faune, c'est donc un personnage mythique, inventé, qui est dans la forêt. Eh bien, il exprime des sentiments, il exprime des sensations, il exprime son ressenti, plus qu'il n'écrit de la musique structurée. Et dans Pelléas et Mélisande, ça sera tout à fait ça. Il va travailler à partir d'un texte de Maurice Maeterlinck, qui était un poète de l'époque, un poète symboliste, qui évoquait. Son œuvre, ce sont des évocations, ce n'est pas une œuvre structurée avec un début, une fin. Bien sûr, il y a une histoire, l'histoire elle est terrible, c'est Mélisande qui est trouvée par Golo, un prince, qui va l'épouser. Cette Mélisande, on ne sait pas d'où elle vient, tout est mystérieux, elle a été trouvée dans une forêt. Vous voyez qu'on n'est que dans un monde d'évocation, il y a très peu de choses concrètes, on n'est pas chez Verdi avec des personnages historiques. On est avec Pelléas, qui est le frère de Golo, qui lui va tomber amoureux de Mélisande, et Mélisande va tomber amoureuse de lui. Golo, sombre histoire comme toujours dans l'opéra, Golo va tuer Pelléas et Mélisande va en mourir. Mais tout ça, ce n'est pas du tout sous l'angle de l'action, c'est sous l'angle de la sensation, du ressenti, de l'évocation, de la suggestion. Et là, Pelléas, c'est une œuvre majeure dans l'histoire de l'opéra parce que c'est une œuvre qui n'est absolument pas sur les modèles précédents, y compris sur le modèle de messager que Debussy aimait beaucoup. C'est réellement novateur et ça ne ressemble à rien de ce qui a été écrit auparavant. Écoutons un premier extrait qui est d'ailleurs le début.
Thank you. sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Je croyais cependant l'avoir blessé à mort, et voici des traces de sang.
Nous avons vu le mystère, ressenti le mystère de cette œuvre. Golo rencontre donc Mélisande. Et dans un deuxième extrait, nous allons écouter Péléas, puisque le titre éponyme, c'est donc Péléas et Mélisande. Et nous voyons que nous baignons dans un espèce de nuage. On n'est absolument pas dans une œuvre... je cherche le terme, mais dans une œuvre plus fracassante. On est dans un nuage, on est dans le symbolisme, on est dans l'évocation. Continuons avec Péléas et ce second extrait.
Par naturel, Mélisande, où es-tu?
Au bout de 2 ans passés à la Villa Médicis, Debussy s'ennuie, il rentre en France en démissionnant du conservatoire. Il s'installe alors dans la vie parisienne, une vie personnelle un peu tourmentée. Il a des relations avec une danseuse, Gabrielle Dupont, une chanteuse et pianiste, Thérèse Roger. Il épouse un mannequin, Rosalie Texier, puis Emma Bardac, puis... Il a des relations avec Marie-Blanche Vanier, qui est une femme mariée, ce qui fait grand scandale, bien sûr, à l'époque, avec qui il a une longue relation et pour laquelle il compose beaucoup de mélodies. L'exposition universelle va vraiment l'intriguer, l'intéresser. Il va découvrir des nouveaux rythmes, il va découvrir de nouveaux instruments, le gamelan javanais, par exemple, qui va lui donner beaucoup d'idées musicales. Il va s'installer dans la vie musicale par une activité assez courte mais très intense de critique musicale sous le pseudonyme de Monsieur Croche. Et il aura la plume et la dent dure pour ce qu'il n'aime pas en musique. Au moins, cette activité va lui permettre d'imposer sa vision personnelle de la musique. Il écrit uniquement sur ce qui l'intéresse, en fait. Et c'est bien mieux comme ça. Alors, il aura des paroles terribles pour Berlioz, pour Gluck, pour Saint-Saëns, pour les véristes, on l'a dit, et puis à la fin pour Wagner, tout en admirant Rameau, Weber et Moussorgski. Voilà. Cette activité va se doubler d'une activité, bien entendu, de composition. Il a déjà composé beaucoup. On a écouté une partie de ses œuvres. Les préludes, il termine Péléas, etc. Et la chanson Bilitis, il compose beaucoup d'œuvres. Et dans son activité musicale, il égratigne les chefs d'orchestre. Écoutons ce qu'il écrit. « Remercions M. Chevillard, donc chef d'orchestre, de s'abstenir de la pantomime tauromachique habituelle à certains chefs d'orchestre internationaux. C'est très déconcertant, ces façons d'aller planter des banderilles dans la tête d'un corps anglais ou de méduser de pauvres trombones avec des gestes de matador. » Vous voyez un petit peu l'acidité de la plume de Debussy. Nous allons écouter maintenant, joué par Debussy lui-même d'ailleurs, avec un son très clair, l'œuvre « Docteur Gradus ad Parnassum ». Qui est une œuvre qui est tirée de l'œuvre plus générale qui s'appelle Children's Corner. Thank you.
intéressant d'écouter Debussy jouer lui-même. Il n'est peut-être pas le plus grand des pianistes, mais en tout cas, il nous donne l'idée de ce qu'il entend, de ce qu'il attend de ses œuvres. Et on voit que c'est, je parlais tout à l'heure de suggestion, mais il peut y avoir aussi beaucoup de dynamique dans sa musique. Écoutons maintenant une autre œuvre pour piano, Les Jardins sous la pluie. On voit que toujours dans les titres, très souvent, il y a des évocations de la nature, toujours un peu des suggestions. Écoutons maintenant Jardin sous la pluie.
Vos oreilles exercées auront reconnu la manière dont Debussy, avec une rare habileté, sous une pluie de notes, puisque le morceau s'intitule « Jardin sous la pluie », glisse deux comptines pour enfants, « Dodo l'enfant d'eau » et « Nous n'irons plus au bois ». Réécoutez, si vous n'avez pas identifié à la première écoute, c'est assez étonnant. Debussy va composer, avant de mourir malheureusement en 1918 d'un cancer, un certain nombre d'années avant, une fresque musicale symphonique absolument sublime qui est La Mer. Quand on a parlé d'impressionnisme pour Ravel, on a dit que Ravel récusait cette expression qui était consacrée au peintre. Debussy l'a récusée tout autant. Mais lorsque vous écoutez La Mer, et notamment cet extrait du deuxième mouvement, vous comprenez que Debussy a totalement renouvelé la forme symphonique, toujours avec son, son credo, le but de sa vie, composer dans la liberté. On n'entend plus des notes, on entend des vagues de notes et, on va dire, des impressions. Voilà, écoutons cet extrait, La mer.
Thank you.
Nous avons écouté lors de cette émission Aldo Ciccolini jouer la première arabesque et le clair de lune, puis Marc Pontus, notre pianiste bressan, exilé aux États-Unis, dans l'étude pour les arpèges composés. Le prélude à l'après-midi d'un faune dirigé par Pierre Boulez et qui dirigeait l'orchestre de Cleveland, Péléas par Herbert von Karajan et sous sa baguette Richard Stilwell, José Van Damme et la merveilleuse Federica von Stadt. Ensuite, Debussy lui-même jouant son docteur Gradus ad Parnassum. Enfin, Nicolas Louganski dans Les Jardins sous la pluie, et nous avons conclu par cette œuvre majeure et éblouissante qu'est La mer, la deuxième esquisse, Jeu de vagues, par Claudio Abbado. Nous n'avons encore pas choisi notre prochaine émission, aussi nous vous donnons rendez-vous dans un mois avec un effet surprise. Bonne fin d'après-midi à vous et bon mois qui vient.
À bientôt.